Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. 20% de la population mondiale est directement concernée par l'hypertension artérielle et pourtant, cette affection n'est pas forcément bien connue par le grand public, souvent liée à l'âge, au mode de vie. L'hypertension est donc la plus fréquente des atteintes cardiovasculaires et en France, cette pression sanguine excessive dans les artères touche pas moins de 12 millions de personnes. L'hypertension artérielle a pour conséquence de rigidifier, de durcir les parois des artères et à terme risque de provoquer des atteintes au niveau du cerveau ou du cœur. Au-delà du danger d'infarctus ou d'AVC, cette hypertension artérielle non contrôlée peut avoir un impact sur l'activité cardiaque en général, l'activité rénale, avec à la clé des insuffisances. D'où, une fois le diagnostic posé, les impératifs de suivi et de traitement, une prise en charge régulière associée à des changements dans l'hygiène de vie, manger mieux, se remettre à exercer régulièrement une activité physique, pour qu'au-delà de l'hérédité qui peut aussi entrer en ligne de compte, eh bien le patient, aidé par son médecin, adopte des habitudes qui le réconcilient avec la santé de ses artères. Journée mondiale contre l'hypertension artérielle. On en parle avec vous, docteur Nicolas Postel-Vinet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de la République démocratique du Congo le professeur Jean-René Mbuyamba, professeur de cardiologie à l'université de Kinshasa, attaché au service de cardiologie de l'hôpital universitaire de Kinshasa, président de la Ligue congolaise contre l'hypertension. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Et bien sûr, notre numéro 1 pour poser vos questions, pour témoigner. N'hésitez pas à nous joindre. Ce numéro, c'est bien sûr le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
L'hypertension, premier motif de consultation en médecine générale en France. Docteur Nicolas Postel-Vinet, l'hypertension, mal très répandue, pourtant silencieux, plutôt mal connu. Ça veut dire que la plupart du temps, l'hypertendu, quand il arrive chez le médecin, qu'il n'a pas encore été diagnostiqué, il ne s'imagine même pas qu'il est hypertendu?
Oui et non. Alors oui, parce qu'il y a des hypertensions qui ne sont pas découvertes, notamment, et la plupart du temps, chez les personnes qui ne vont pas régulièrement chez le médecin. En revanche, la prise de tension artérielle est un des actes médicaux les plus courants à toute occasion. Donc on découvre quand même dans tous les pays des hypertensions parce que même des sujets jeunes, je pense aux jeunes femmes qui peuvent prendre une contraception orale, à l'occasion de certains malaises, les médecins prennent l'attention. Donc il existe à la fois des situations où on ne connaît pas son hypertension, mais chez les gens qui ont des visites de temps en temps chez le médecin, mettons une fois tous les deux ans, la pression artérielle est prise et à ce moment-là, on commence à voir des chiffres élevés qui mettent la puce à l'oreille.
Ça fait partie des gestes de base de l'examen clinique. Docteur Postel-Vinet, c'est bien sûr la base, mais c'est toujours important de le rappeler. Ce calcul, cette prise de tension, elle repose sur deux chiffres, tension systolique, tension diastolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi ça consiste précisément?
Bien sûr. Alors, le cœur, c'est une pompe. Une pompe, ça se contracte, ça se relâche. Quand la pompe se contracte, c'est la systole, la pression est à son maximum. C'est pour ça que le chiffre du haut, on dit c'est la pression artérielle systolique. Et quand le cœur se relâche, le sang continue de circuler dans les artères, mais la pression à ce moment-là est plus basse et c'est la pression diastolique. Le médecin repère les élévations qui concernent les deux chiffres. C'est-à-dire qu'on va rechercher des excès à la fois dans la pression du haut, la pression systolique, et à la fois dans la pression du bas, la pression diastolique.
Est-ce que ces indices changent en fonction de l'âge ou de certaines périodes de la vie?
Ça changeait essentiellement en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, après, mettons 60 ans, les artères se durcissent de façon tout à fait naturel, on vieillit, comme on a la peau qui change, on a le squelette qui change, eh bien on a la paroi des artères qui se durcissent. Et quand l'artère est plus dure, il y a une souplesse qui se perd et la pression systolique a tendance à monter. Ce qui fait que, grosso modo, un tiers des personnes sont hypertendues vers l'âge de 60 ans, mais si on prend le pourcentage des personnes qui ont de l'hypertension à 70, 80, 90 ans, l'hypertension artérielle devient quasiment constante à partir de, mettons, 80 ans. Là, c'est presque tout le monde qui est hypertendu. Hypertendu, c'est-à-dire des chiffres de pression artérielle jugés trop hauts à plusieurs
reprises
de mesure.
Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est pas une fois une tension forte qui peut être liée à un événement de santé précis, ponctuel, mais bien, docteur Nicolas Postelvinet, cette prise régulière, justement, entre guillemets, quand on va bien, il faut prendre sa tension tous les combien, et quand on est hypertendu, diagnostiqué, tous les combien, à quelle fréquence ?
En situation de dépistage, il y a d'une part, c'est-à-dire quand on ne sait pas qu'on a de l'hypertension ou qu'on n'en en a pas, eh bien, à l'occasion, le médecin généraliste, voire une infirmière, prend la tension. En gros, pour un adulte jeune en bonne santé, mais aussi éventuellement un enfant, une fois tous les deux ans, c'est si ça a été bien fait, c'est tout à fait satisfaisant. Et puis après, plus on monte en âge, il faut la prendre une fois par an. Et puis, il y a des occasions de santé. Encore une fois, la prise de pression artérielle, la prise de contraceptif, ou chez les gens qui fument, ou chez les gens qui prennent trop d'alcool, ou ce qu'on appelle des facteurs de risque, ou des gens qui ont du diabète, parce que ça abîme, le diabète abîme les artères. À ce moment-là, c'est presque à chaque consultation, donc en gros 3-4 fois par an.
Alors, on l'a dit, affection très répandue, et pourtant, bien les causes précises de cette hypertension ne sont pas forcément simples à déterminer. Docteur Postelvinet, pourquoi ? Parce que la recherche ne le sait pas ou parce qu'on ne le saura pas de toute façon ?
La raison est que les causes d'élévation de pression artérielle peuvent être très nombreuses. Donc on sait très bien reconnaître 10% des hypertensions qui proviennent soit d'une anomalie des artères rénales, soit d'un problème d'hormones au niveau de ce qu'on appelle les glandes surrénales. Donc ça, dans 10% des cas, on reconnaît bien une cause précise qui mérite un traitement particulier. Ces causes-là sont, je simplifie bien sûr, responsables d'hypertension chez des sujets relativement jeunes. Donc c'est important d'identifier ces deux causes. Après, l'hypertension tout venant, c'est une addition d'énormément de facteurs dont le principal est la rigidité des artères, mais il y en a d'autres, l'hygiène de vie, le fait de pas bouger, le fait de manger trop de sel, etc. Le facteur génétique, comme vous l'avez dit en introduction. Et là, effectivement, on parle dans le jargon médical d'hypertension idiopathique, c'est-à-dire sans cause précise. Alors, la recherche est en train de décrypter tout ça, mais on n'a pas de réponse simple à vous apporter en dehors des problèmes d'anomalie des glandes surrénales et des artères rénales et du rein.
Alors, absence d'explication dans certains cas, absence de signes extérieurs, justement, en dehors de cette prise de tension, docteur Nicolas Postelvinet, est-ce que ça ne complique pas les choses, en gros, quand on ne se sent pas malade, d'être traité ?
Oui, c'est compliquer les choses, je ne sais pas. Il faut
sensibiliser du moins le patient,
voilà,
sur la réalité de sa pathologie.
C'est-à-dire que pour l'ensemble de son corps, il n'y a pas que l'hypertension, il faut intégrer que le corps médical est capable de faire de la prévention. Donc on sait que les grandes lignes de la prévention, c'est lutter contre l'obésité, ne pas fumer, faire de l'exercice physique, mais qu'on soit hypertendu ou non, ce sont des bases, parce que ça marche aussi contre les cancers. Donc, le raisonnement est que avoir un contact avec une infirmière ou un médecin une fois par an ou une fois tous les deux ans est quand même quelque chose de tout à fait clairvoyant. Après, c'est vrai que il y a des tas de personnes qui n'ont pas envie de voir le médecin, qui ne peuvent pas voir le médecin ou qui ont peur du médecin. Et du coup, vous avez raison, elles ne sont pas poussées par une souffrance, elles ne sont pas poussées par une douleur. Et il n'est pas exceptionnel qu'on découvre des hypertensions en fait qui remontent à une dizaine d'années et qui malheureusement ont déjà détruit les artères et par exemple les reins. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué de faire de la prévention parce que une partie des dégâts sur les artères a été faite.
Et la réponse thérapeutique, docteur Nicolas Postelvinet, à quoi elle ressemble ? Multiplicité des molécules, multiplicité des axes thérapeutiques ?
D'abord, il faut que tout le monde intègre le fait que le but de la prise en charge, c'est de ramener les chiffres à la normale. Donc on baisse les chiffres. Ça, tout le monde doit le comprendre, absolument tout le monde. À partir de là, on a deux grands moyens. D'une part, les médicaments, on pourra y revenir si vous le voulez, et d'autre part, l'hygiène de vie. Et on a sous-estimé l'impact de l'hygiène de vie ces dernières 30 années. Depuis maintenant 5-10 ans, ça redevient plus en action de sensibilisation. Il n'y a pas que les médicaments dans la prise en charge, il y a l'hygiène de vie, les deux doivent être associés. En même temps, en faisant la promotion de l'hygiène de vie, je ne voudrais pas dire qu'on peut facilement se passer des médicaments. En matière de prévention cardiovasculaire, on a 50 ans de recherche et on sait qu'il y a une énorme efficacité d'utiliser les médicaments.
Alors, docteur Nicolas Postelvine, vous restez avec nous. Hein. On va justement parler traitement, prise en charge, hygiène de vie tout de suite avec les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et une première auditrice qui nous appelle du Cameroun, de Yaoundé, c'est Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Nicolas Postelvinet vous écoute.
Ok. Ma question, ma préoccupation est la suivante. Je vais d'abord faire un petit témoignage. En fait, moi j'ai un problème. Quand j'arrive à l'hôpital, on prend mes paramètres, la tension est élevée. Donc, il y a déjà un an, j'étais à souvent 17, 16 et 15. Donc, ça oscillait entre ces trois chiffres-là. Et vu l'âge, ils m'ont demandé que non, pour être sûr, avant de me mettre ce médicament, ils voulaient se rassurer que c'est la bonne tension. Donc, ils m'ont mis un appareil, ils ont appelé ça la MAPA. Et la MAPA a relevé qu'à la maison, la tension était de 12 et de 13. Bon. Étant donné que j'étais en surpoids, ils m'ont recommandé que c'est une légère tension, mais une légère élévation de la tension, mais ils ont dit qu'il me fallait suivre des mesures hygiéno-diététiques. Donc, je l'ai suivi et j'ai perdu pratiquement 8 kilos à l'heure où nous sommes. Et présentement à l'hôpital, la tension est à 14,7 et à la maison, ça descend à 11,7 et 10. Donc, je voudrais savoir comment faire pour vaincre cette... Parce que pour dire vrai, la prestation à l'hôpital atteint souvent les 100, souvent les 90, mais à la maison, je suis entre les 75 et 80 de fois. Donc, je voudrais savoir comment, qu'est-ce qui est à l'origine de ça et comment résoudre ce problème.
Docteur Nicolas Postelvinet, cette tension de Sonia qui fait le yo-yo quand elle va à l'hôpital, chez elle... On peut dire, c'est, si vous me démentez si j'ai tort, c'est normal. Et puis quand elle arrive devant le médecin, ben, ça va beaucoup moins bien. Pourquoi ?
Alors d'abord, je voudrais dire à Sonia qu'elle a été très bien prise en charge. Les médecins l'ont très bien conseillée. C'est-à-dire que le médecin découvre des valeurs trop fortes. Et avant de se précipiter sur les traitements, ce qui malheureusement arrive de temps en temps, les médecins disent on va prendre un peu notre temps et on va mesurer plus longtemps votre pression artérielle. Et là, vous avez eu Sonia la technique de la mesure ambulatoire, la MAPA, on aurait pu faire de l'automesure. Et là, on a trouvé qu'à la maison, quand vous êtes loin de la blouse blanche, vous êtes donc moins stressé, vous n'avez pas ce qu'on appelle la réaction d'alerte, et les chiffres sont tout à fait normaux à la maison, donc vous n'aviez pas besoin de traitement, ils ont bien fait. Alors, il faut savoir que cette hypertension blouse blanche concerne un tiers des personnes. Donc, un tiers des personnes, et c'est bien normal, ont une réaction de provisoire, d'élévation de tension, parfois un tout petit peu d'accélération du cœur. On n'est pas détendu quand on est dans un hôpital, c'est complètement normal, ça arrive à tout le monde. Et donc l'importance de l'automesure et de la MAPA est fondamentale. Et vos médecins vous ont évité des médicaments pour rien. Mais ils ont fait encore mieux, puisqu'ils vous ont finalement convaincu d'avoir une meilleure alimentation et de retourner à un poids plus proche des normes. Donc, c'est bravo. Donc, vous êtes un tiers des cas dans ce cas-là. Vous n'êtes pas la seule, Sonia. Vous avez été très bien prise en charge. Donc, on retient en pratique qu'on ne démarre pas chez un sujet jeune des traitements par médicaments sans faire une MAPA ou sans faire une automesure.
Voilà, Sonia. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Avoir peur du médecin, finalement, c'est pas si grave. En tout cas, c'est beaucoup mieux que de souffrir d'hypertension. Très bonne journée à Yaoundé. Vous voulez rajouter quelque
chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose pour Sonia. Donc maintenant, puisqu'on a vu que les tensions étaient parfois un peu hautes, il faut recontrôler votre tension comme ça à la maison, mais ne le faites pas tous les jours, ça ne sert à rien. Vous avez une tension parfaitement normale et vous pouvez, par exemple, encore une fois par automesure, parce que c'est plus simple d'aller chez le médecin, recontrôler dans un an, dans 6 mois ou dans un an, mais surtout pas tous les jours. Votre tension, elle est bonne et elle va rester bonne encore un certain temps.
Voilà, Sonia, très bonne journée. Merci de votre appel. Très bonne journée à Yaoundé. On va prendre tout de suite Barry, qui est en ligne de Guinée, de la ville de Conakry. Bonjour, Barry.
Bonjour.
On vous écoute.
Comme je vous le disais tantôt, moi, je suis hypertendu. Depuis 2014, la maladie m'a commencé en 2004, lorsque j'étais au Canada. C'est là-bas que cela a été diagnostiqué. Je suis allé à Dakar pour faire des examens. Je suis passé par l'Institut Pasteur. J'ai fait le bilan complet. J'ai fait le scanner, la radiographie. Le professeur que j'avais rencontré, un professeur agrégé de neurologie, il m'a traité. J'ai fait la kinésithérapie pendant un mois. Et j'ai eu la chance de retrouver un peu ma santé.
Barry, vous souffriez de quoi? Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes? Pourquoi finalement vous avez eu besoin de consulter?
Le côté droit chauffe, ça me fait beaucoup mal. On dirait que vous avez enlevé la peau et vous avez mis de l'acide. Pour un premier temps, il m'a donné du tégretol. Là, j'étais allergique. J'ai pris une forte dose de Rivotril, ça n'a pas marché. J'ai pris 6 doses de Rivotril. J'ai pris une dose de Lyrica, 2 doses de Lyrica 25, ça n'a pas marché. 2 doses de Lyrica 75, ça n'a pas marché. Il m'a prescrit de l'Anafranil 25. J'ai pris ça aussi à forte dose, 2 doses. Toujours, ça continue à brûler. Je voudrais savoir si cette maladie est curable. Si on peut la traiter.
Docteur Nicolas Postel, venez à vous voir. Ça vous parle quand Barry explique ses symptômes et son traitement?
Oui, ça me parle tout à fait, mais je vais donner quelques explications générales pour l'ensemble des auditeurs.
Et même pour moi.
Voilà, donc Barry, on apprend en vous écoutant qu'on peut avoir de la tension pendant 10 ans. Et c'est tout à fait vrai, ça peut être 20 ans. La tension est là sans qu'elle soit prise en charge spécifiquement et on vit sa vie. On retient que si on a de la tension pendant plus de 10 ans, 3 organes peuvent être touchés, le cerveau, le cœur, les reins.
Cette douleur qu'il décrit, c'est quoi précisément?
La question que pose votre douleur, c'est est-ce que l'hypertension a pu faire souffrir le cerveau? Alors le cerveau souffre dans l'hypertension de 2 façons. Soit l'artère qui va vers le cerveau se casse et c'est un accident vasculaire, cérébral, aigu, hémorragique, on fait une hémorragie cérébrale. Là, c'est dramatique et de façon un peu populaire, on dit on se retrouve dans une chaise roulante. C'est-à-dire que on peut devenir paralysé de tout un côté d'un coup et là, on se retrouve aux urgences à l'hôpital, voire on décède. Donc, l'hémorragie cérébrale est une des complications de l'hypertension. Le deuxième mécanisme, c'est la possibilité que l'artère qui a été abîmée se bouche à cause d'un caillot qui se met dans l'artère et ça occasionne ce qu'on appelle des troubles neurologiques. Dans les troubles neurologiques, vous avez le décès, la paralysie ou des difficultés à vous servir soit d'un bras, soit de doigts, soit d'un pied, soit d'une jambe ou éventuellement des douleurs. Donc vous avez vu un neurologue, spécialiste du cerveau et des maladies des nerfs. Les médicaments que votre neurologue a employés ne sont pas des médicaments de l'hypertension, ce sont ce qu'on appelle des douleurs, le traitement des douleurs neuropathiques. Le Rivotril, le Tégretol et le Lyrica sont des médicaments qui essayent de lutter contre des douleurs nerveuses très spéciales. Donc on n'est pas dans le cadre de l'hypertension. Et si vous me posez 2 questions, est-ce que c'est curable ? Pour ce qui est de l'hypertension, on y reviendra, je dis juste ici, bien sûr, c'est maîtrisable l'hypertension. Si vous êtes hypertendu, vous n'avez pas parlé de vos chiffres, on saura les faire baisser. En revanche, si votre neurologue a vu juste, ce que je pense bien sûr, vous souffrez de quelque chose d'autre que l'hypertension et qu'on ne va pas développer dans cette émission, ce sont des douleurs neuropathiques qui sont effectivement difficiles à traiter, mais sachez que les médicaments qui vous ont été proposés sont tout à fait ceux qu'on utilise et ils sont un peu délicats à prescrire, à manier, mais ce sont des médicaments classiques des douleurs des nerfs.
Voilà cette réponse, Barry, du docteur Nicolas Postel-Vinet. Vous êtes bien pris en charge, c'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Et donc, bonne continuation. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Je rajoute une chose. Pour savoir si le cerveau est touché, c'est effectivement le scanner qui donne la réponse. Vous avez eu un scanner, c'est une bonne pratique. Et le scanner a la clé du diagnostic. Donc, je n'ai pas votre examen, je ne peux pas vous répondre. Mais on sait sur un scanner reconnaître un accident vasculaire cérébral par analyse radiologique. Attention, les scanners, il ne faut pas en faire souvent. On ne fait que sur prescription médicale de personnes qui ont des symptômes neurologiques très particuliers. Ce n'est pas du bilan, du dépistage courant d'hypertension. On ne va pas faire un scanner cérébral à un tiers de la population mondiale.
Mais de toute façon, docteur Postel-Vinet, vu le coût des scanners, en particulier dans ces parties du monde, les gens ne sont pas tellement amenés à en faire un peu
même
de façon...
Même c'est inutile. Admettons que ça soit gratuit, de toute façon, ce n'est pas utile. Il faut le faire que s'il y a des symptômes examinés par un médecin qui s'y connaît un peu.
Ce qu'on peut voir d'ailleurs ici en France, hein, des gens qui réclament un peu des scanners à tir à l'arigot, on ne les fait pas. D'accord. Et ben, on va prendre tout de suite un autre auditeur, c'est clair. On va prendre un autre auditeur, cette fois qui nous appelle du Cameroun, de la ville de Bafoussam. C'est Paul. Bonjour Paul.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute, Paul.
Oui, je souffre de palpitations cardiaques depuis près de 5 ans. Quand je vais à l'hôpital, ma tension artérielle est à 14, 15, rarement à 16. Bon, j'ai rencontré un cardiologue, il m'a prescrit un examen électrocardiogramme. Oui, je l'ai fait et il m'a prescrit un médicament. Je prends il y a de cela un mois, deux semaines. Bon, ma tension présentement est en baisse. Je suis à 13. Mais les palpitations du cœur continuent. Je ne sais pas le pourquoi. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas.
Paul, vous ne nous avez pas donné votre âge? Votre âge, vous avez?
Oui, j'ai 30 ans, madame. J'ai 30 ans.
Alors, vous voilà, 30 ans, palpitations. Baisse de tension après la prise d'un traitement. Docteur Nicolas Postel-Vinet, peut-être que vous avez besoin de connaître la nature de ce traitement ?
Pas encore, parce que j'ai besoin de deux examens et Paul, vous les avez cités. D'une part, le tensiomètre, d'autre part, l'électrocardiogramme. Quand on souffre du cœur, ce qu'on appelle des palpitations, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cœur ne bat pas régulièrement, dit autrement, la réponse, c'est l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est très courant, peu coûteux, facile à obtenir dans tous les pays, et ça étudie le rythme du cœur. Et ça répond à la question, est-ce que le cœur bat régulièrement ou pas ? Est-ce que le cœur bat trop vite ou pas ? Et est-ce qu'au moment d'une palpitation, on découvre une anomalie du tracé électrocardiogramme ? Si vous avez ces anomalies, ce sont des traitements du rythme cardiaque. Ce n'est pas les traitements de la baisse de la tension. Par ailleurs, bien sûr, si votre médecin vous juge hypertendu sur la mesure, vous avez des traitements de la tension. Donc il faut séparer les deux choses. Même si l'hypertension favorise des anomalies du rythme qu'on appelle le plus couramment fibrillation auriculaire, vous avez deux choses distinctes et donc des médicaments distincts et des examens distincts, le tensiomètre d'une part, l'électrocardiogramme de l'autre.
Mais en tout cas, important de prendre en charge conjointement ces deux pathologies.
Il faut savoir absolument, et par contre, dans le bilan courant des gens diagnostiqués hypertendus, l'électrocardiogramme est systématique une fois par an ou une fois tous les deux ans. Ça fait partie, à l'inverse du scanner, du bilan systématique.
Voilà pour cette réponse, Paul. Excellente journée chez vous au Cameroun. On va rester au Cameroun avec Roméo qui est en ligne de Yaoundé. Et on va tout de suite vous prendre en ligne. Roméo, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, Roméo.
Oui, j'avais deux questions à poser. Mais avant, c'est d'abord un témoignage. Quand j'avais 25 ans, parce que depuis j'ai 30 ans, je suis passé à l'hôpital pour un problème de palu. Lors de la prise de mes paramètres, à savoir le poids, température, la tension artérielle, les infirmiers qui ont préparé ont constaté que ma tension était tel et le jour. Alors de 15 et 16, il était tout étonné pour mon âge. Et par la suite, j'ai été contacté par un médecin généraliste qui m'a prescrit un traitement, qui a mis ce traitement d'hypertension. Le lendemain, on a pu prendre les résultats de l'examen du CAL. Son collègue présent a contesté ce traitement et a dit que c'était plus une petite temps commencer à prendre ce traitement. La question était donc de savoir pourquoi c'est mauvais de mettre un jeune sur le traitement d'hypertension et qu'est-ce que vous conseillez pour un jeune de son âge?
Alors, on n'a pas très très bien entendu. Je vais essayer de résumer. Hein. Vous me coupez si j'ai tort. Vous avez 30 ans à 25 ans pour une simple visite, pour une crise de palu. On s'est rendu compte que votre tension était très élevée, 15-16. Vous avez été traité. Mais en fait, ce qui vous étonne, vous, c'est que vous soyez hyper tendu aussi jeune. D'où cette question au docteur Nicolas Postel-Vinet. Hyper tendu à 25 ans, c'est possible?
Oui, c'est possible, mais c'est pas fréquent. Par contre, je dis ce qui n'est pas fréquent, c'est le diagnostic d'hypertension. Mais être jeune et avoir des mesures élevées avec un médecin, c'est très fréquent. Et il n'y a pas que l'hypertension blouse blanche, comme on le disait tout à l'heure. Il y a aussi, en plus, l'anxiété, la prise d'alcool, les douleurs. Si vous êtes migraineux, vous avez des douleurs de maux de tête, ça fait monter la tension. Et pas forcément le contraire. Et si vous avez une crise de palu, vous êtes symptomatique, vous avez des douleurs partout, éventuellement de la fièvre, à ce moment-là, la mesure de la tension qui a été élevée dans ce que vous avez vécu n'était pas dans les bonnes conditions de repos tranquillement au domicile plus tard. Donc, si j'ai compris et bien entendu, vous avez eu des chiffres élevés et après, quand on a pris un peu de recul, les chiffres sont avérés plus bas. En revanche, il est important de noter que même si on a une hypertension légère à 30 ans, l'impact des médicaments n'est pas si important que ça tant qu'on est au-dessous de 40 ans et qu'on a par ailleurs ni diabète ni problème de cholestérol. Et quand on a moins de 40 ans, je fais une simplification bien sûr, les gens hypertendu, ce qu'on appelle de grade 1, en gros, pour simplifier ici, qui ne pense pas au-dessus de 15-16, encore une fois pour simplifier. Eh bien, chez eux, on n'est pas obligé de donner des médicaments tout de suite, mais le médecin va se battre pour le poids, l'exercice physique, le tabac, l'alcool. C'est essentiel. En revanche, si la personne est diabétique, en revanche, s'il y a des anomalies du cholestérol, là, on donne des médicaments. Après 60 ans, ces médicaments pour tout le monde. Donc vous voyez, il y a des nuances dans votre situation. Comment l'attention a été prise? Est-ce que c'était au moment d'une crise de palu avec des maux de tête épouvantables ou des douleurs musculaires? À ce moment-là, l'attention n'était pas prise dans des bonnes conditions. Et puis, si l'attention a été confirmée haute, il est vrai que chez le sujet jeune, le médecin met en place une surveillance, un traitement d'hygiène, mais ne se précipite pas forcément sur une ordonnance de médicaments. Parfois, il faut le faire, hein, je simplifie ici, bien sûr, mais ce n'est pas la règle.
Voilà pour cette réponse, Roméo. Excellente journée au Cameroun, en tout cas. On comprend à vous entendre, hein, docteur Nicolas Postel-Vinet. On rappelle ce qu'on a dit en début d'émission. La régularité de cette prise de tension, c'est vraiment essentiel pour bien comprendre la situation du patient.
Si vous en êtes d'accord, je pense qu'il faudra dire un mot sur ce que c'est que l'automesure. Parce que, encore une fois, il y a des règles bien précises.
Avec ces appareils, vous disiez tout à l'heure qu'ils sont accessibles, voire même, comme c'était le cas pour notre première auditrice Sonia, l'hôpital lui a lui-même confié cet appareil d'automesure, ce qui peut être
non,
pour des
personnes... Non, ce n'était pas un appareil d'automesure, c'était une MAPA.
Alors c'est la différence entre les deux?
La différence, la MAPA, c'est un appareil qui enregistre sur 24 heures, qui est confié par un cardiologue. C'est un appareil coûteux et qu'on se fait prêter et qu'on rapporte le lendemain à la consultation de cardiologie.
Ça évite de rester, par exemple, la journée à l'hôpital pour faire cette prise. Et puis on est dans
c'est
une situation
mieux.
De
C'est même
de,
mieux
de
parce
détente.
Qu'on on est dans une situation de vie courante. Par contre, l'automesure, toutes les pharmacies ou sur Internet vendent des appareils d'automesure qui sont maintenant à des prix tout à fait abordables. Alors, il y en a des bons et des moins bons. Il faut consulter sur Internet les listes d'appareils validés. Et ça, c'est un de nos travaux à Pompidou. Si vous l'acceptez, je dirai où le site concerné, mais peu importe pour l'instant. Donc, on s'équipe d'un appareil qui se met au bras et pas au poignet. Et là, on est tout à fait autonome pour mesurer soi-même sa pression artérielle. On peut prêter l'appareil à la famille, à ses conjoints. Ce sont des appareils vraiment qui sont peu coûteux maintenant et c'est extrêmement facile de les utiliser. Alors attention, comment? Il faut se mesurer la tension 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant au moins 5 jours. tout recopier sur un papier. Et là encore, vous avez des sites internet qui ont des vidéos, des explications et qui disent comment bien faire de l'automesure, de la tension, et on est totalement autonome.
On peut même recopier ces petits calendriers de prise de mesure pour être bien régulier et arriver chez son médecin avec les données en main.
Alors, merci de me donner l'occasion de donner cette réponse. C'est le travail que nous avons effectué à l'hôpital Pompidou avec des experts canadiens, portugais, italiens, etc. Ou sur le site automesure.com, on accède à un calendrier qui, en plus, a une application qui interprète les chiffres de tension en vert, orange, en rouge, et tous les auditeurs auront compris que si vous remplissez les cases et vous répondez aux questions, que vous êtes dans le vert, c'est que vous êtes dans une situation satisfaisante. En jaune, c'est pas terrible, et en rouge, il faut consulter un médecin dans un délai rapide.
Et bien sûr, c'est une application gratuite.
C'est une application gratuite.
Qui s'appelle
Automesure. Donc c'est automesure.com. Après, il y a un petit nom plus savant pour les traductions étrangères, c'est e-result.
Mais bon,
HY plus loin, RESULT.
On est francophone, on va rester avec le premier nom, docteur Nicolas Postelvin, est médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On peut maintenant insister sur ce versant non médicamenteux, cette fameuse hygiène de vie, modifier des règles diététiques. Quand le médecin vous dit il faut que vous perdiez du poids, ça veut dire qu'on va accompagner le patient justement pour justement changer ses habitudes, retirer certains aliments et puis tenter par ce biais de voir l'hypertension mieux contrôlée, on va le dire, pas guérie, mais mieux contrôlée.
Alors, vous posez là au médecin une situation d'échec. La population mondiale, je dis bien mondiale, prend du poids, grossit, les enfants jouent moins, on regarde la télé, on est devant les écrans, on mange mal, des produits qui ne sont pas adéquats, c'est important d'y revenir. Et effectivement, les médecins devraient arriver à le faire baisser, mais on est en situation d'échec. Alors, c'est le médecin, mais en fait, c'est toute la société, c'est à l'école, c'est dans les émissions de médias telles qu'aujourd'hui, où on doit mettre en place les règles de santé. Dans le cas de l'hypertension, il y a une particularité, c'est l'excès de sel. Il y a des habitudes culinaires suivant les pays qui induisent des consommations de sel extrêmement fortes. Il est connu qu'au Portugal, où on prend beaucoup de salaison, la morue salée, la brandade, c'est excellent, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux au Portugal, et il y a une politique de santé publique ces 10 dernières années qui a fonctionné, et on a appris à la population portugaise de prendre moins de sel. Pour ce qui est de la cuisine africaine. Attention, les sauces.
Et les cubes aromatiques.
Les cubes sont que du sel. Et donc, quand on a des chiffres de pression artérielle élevés, c'est vraiment une mauvaise idée de prendre de la sauce salée. Il y a d'autres causes d'apport de sel. Les produits industriels tout préparés sont bourrés de sel. Il n'y a pas que le sel sur la table. Il y a tout ce qui est frites, McDonald's, ce sont des alimentations qui conviennent pas aux bonnes habitudes alimentaires. Donc, l'exercice physique, on l'a dit, mais des habitudes alimentaires, vous avez raison.
Il y a des épices qui donnent du goût et qui sont pas mauvaises pour la santé.
Absolument. Par contre, pas de sel de régime.
Et on prend tout de suite la direction de la République démocratique du Congo. Vous restez avec nous.
Priorité santé sur RFI.
Kinshasa, où on vous retrouve, professeur Jean-René Mbuyamba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur de cardiologie à l'université de Kinshasa, attaché au service de cardiologie de l'hôpital universitaire et président de la Ligue congolaise contre l'hypertension. Première question, professeur Mbuyamba, est-ce que vous avez des données chiffrées sur le niveau de l'hypertension artérielle en République démocratique du Congo ?
Madame, nous n'avons pas, en ce qui concerne toute la population congolaise, un chiffre de niveau de taux de l'hypertension artérielle. Mais nous avons une série d'études fragmentaires au niveau de villes et au niveau de certaines campagnes. Et cela montre que l'hypertension artérielle a une prévalence quelque peu élevée parce qu'elle va de 28% chez les adultes à plus de 30% dans les milieux urbains, et dans les milieux ruraux, on atteint des chiffres de 20%, et dans certains où il y a un stress permanent et un exode rural important des jeunes conduisant au vieillissement de la population, d'une prévalence atteignant parfois 42% de la population.
Des niveaux très élevés. Est-ce que pour autant la population, professeur Jean-René Mbouyamba, est-ce que pour autant cette population congolaise est bien informée sur les risques de l'hypertension?
Je ne pense pas que la population congolaise soit réellement au courant de risque de la maladie hypertensive, bien que sur le plan des observations cliniques, nos salles de soins intensifs sont remplies de conséquences, de complications de l'hypertension artérielle. Quand vous sillonnez nos salles de soins intensifs, par exemple, vous allez voir qu'à peu près 40 à 65% sont soit des AVC, soit des compensations cardiaques à la suite de la maladie hypertensive. Mais la population ne l'est pas.
Ce qui veut dire qu'il y a des gros problèmes au niveau de la prise en charge en amont, en quelque sorte quand on est, si j'ose dire, simplement hypertendu. Ce que l'on voit, ce sont de graves complications, c'est bien ça?
Exact. Et effectivement, quelques études que l'on fait dans la population montrent que sur 100 malades qu'on découvre, il y en a à peine 30-40% qui sont au courant de leur hypertension. La plupart ne sont même pas au courant. Et même ceux qui sont au courant sont rarement sous traitement convenable, sont rarement adéquatement contrôlés.
Alors face à cet état de fait, quels conseils simples en matière notamment de prise en charge ou même simplement de prévention voudriez donner, professeur Mbouyamba?
En matière de prévention, la première chose que nous faisons et que nous disons, c'est de demander à ceux qui sont déjà diagnostiqués hypertendus de pouvoir adhérer complètement à leur traitement pour éviter les complications telles que nous les voyons à l'hôpital. Et pour ceux qui ne sont pas hypertendus, c'est de modifier leur comportement, leur mode de vie, leur mode d'alimentation, d'adhérer à une alimentation qui puisse être propre à éviter l'élévation des chiffres tensionnels, notamment une réduction de la consommation de sel, une diminution de la consommation d'alcool et bien entendu augmenter le physique qui peut également aider à aider le poids et que nos populations prennent du poids.
Alors la ligne s'abîme. On vous remercie infiniment, professeur Jean-René Mbouyamba, pour ces précisions, ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur attaché au service de cardiologie de l'hôpital universitaire de Kinshasa et président de la Ligue congolaise contre l'hypertension. On va prendre tout à l'heure un auditeur en ligne, mais d'abord j'ai cette question précise sur les risques de l'hypertension artérielle pour les femmes enceintes. On peut le dire, grossesse, là, il y a vraiment des risques particuliers.
Il y a des risques extrêmement particuliers parce que l'hypertension artérielle durant la grossesse est la première cause de ce qu'on appelle d'éclampsie, c'est-à-dire de prématurité, d'accouchement prématuré avec possibilité, dans certains cas dramatiques, de mort fœtale. Donc, autant je disais tout à l'heure qu'il fallait, quand on était jeune, prendre attention une fois tous les ans ou tous les deux ans quand tout allait bien, toute femme enceinte doit avoir une mesure de pression artérielle bien faite tous les mois. Et c'est essentiel. Est-ce que je peux dire un mot à propos de l'intervention de mon collègue,
Monsieur
Mbouyamba? Il a dit quelque chose de très important. Il a dit chez les gens traités dans nos messages, il faut qu'on persuade nos patients de prendre bien leurs médicaments tous les jours. Il a raison. Nous sommes en difficulté chez beaucoup de personnes, une fois diagnostiquées, une fois le choix du traitement fait, de persuader des gens qui se sentent bien finalement, mais quand même qui sont hypertendus, à prendre leur traitement. Et c'est là où l'absence de symptômes est un obstacle. C'est aussi parce que on ne prend pas le médicament. Et ça, c'est dommage. Ça se qu'appelle une perte de chance.
Alors, docteur Postelvino, on va donner la parole à un dernier auditeur de Priorité Santé. Il nous reste assez peu de temps. Il nous appelle de Mauritanie, Nouakchott. C'est Sid Ahmed. Bonjour, Sid Ahmed.
Bonjour, Madame Perret. Bonjour, docteur.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, merci, madame. En fait, j'ai dans mon entourage familial ma maman qui malheureusement souffre de l'hypertension. Et depuis les années, fin des années 90, on a détecté cette hypertension. Aujourd'hui, il est traité. Les cardiologues disent qu'il n'a pas de problème grave cardiaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de, de pathologie cardiaque, seulement il a une hypertension. Et là, la première question que le docteur me posait, et je me pose toujours, est-ce que cette hypertension est due à un problème rénal d'abord, ou bien l'insuffisance rénale au stade final dont elle souffre aujourd'hui est causée par cette hypertension? C'est la première question. La deuxième question, c'est à propos de pertinence du régime anti-sel. Les docteurs ont recommandé ce régime sans sel. Et aujourd'hui, je constate qu'elle a beaucoup perdu du poids. Elle se nourrit pas comme il faut, alors que j'imagine qu'il faut vraiment un régime diététicien convenable pour que le corps puisse se défendre, puisse
s'immuniser. Donc vous interrogez sur l'utilité de ce régime sans sel. Je vais me tourner tout de suite vers le docteur Nicolas Postelvinet. D'abord, causalité, maladie rénale, hypertension, l'un cause l'autre, est-ce qu'on sait d'où
les
ça
deux
vient
sont les possibles. Deux. On a l'habitude de dire que le rein peut être soit victime, soit coupable de l'hypertension. C'est quand même le plus souvent victime, c'est-à-dire qu'en règle générale, c'est l'hypertension qui est la maladie la plus fréquente, qui au bout de 10-20 ans finit par abîmer considérablement les reins. L'inverse est plus rare, mais c'est possible. Une maladie rénale peut entraîner de l'hypertension. Pour le régime sans sel et l'insuffisance rénale, c'est au cas par cas. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que les médicaments de l'insuffisance rénale et de l'hypertension font bouger le taux de sel dans le sang, ce qu'on appelle la kaliémie. Et d'autre part, on peut avoir les deux situations, soit dans les prises de sang, trop de sel dans la prise de sang, ou pas assez. Donc je suis pas capable de répondre de façon précise pour votre maman sans connaître le dossier.
Et j'imagine que les médecins qui lui ont en tout cas prescrit ce régime sans sel avaient eux le dossier sous les yeux et devaient certainement parler en connaissance de cause. Merci beaucoup Sid Ahmed de cet appel de Nouakchott en Mauritanie. Et merci à vous, ça touche déjà à sa fin pour notre focus sur l'hypertension artérielle. Docteur Nicolas Postelvinet, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On mettra sur notre site internet rfi.fr les références de l'application que vous avez citée dans le cours de cette émission. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Merci. Et dans Priorité Santé, c'est le moment de retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous allez nous parler des seins et de la sexualité. Les seins, est-ce que l'on peut parler en les désignant véritablement d'organes sexuels?
Alors je dirais oui à 100%. Les seins, évidemment, ils sont un peu loin de la zone sexuelle. Pourtant, oui, ce sont des organes sexuels. Parce qu'ils ne servent pas seulement de décoration pour donner des jolies rondeurs aux femmes, et ils jouent un rôle dans la sexualité et aussi dans la sexualité masculine.
Alors précisément, comment définir ce rôle?
Alors le premier rôle des seins, c'est un rôle de séduction. C'est très important parce qu'ils sont en première ligne visuelle dans la séduction, et même, on pense que c'est pour ça qu'ils existent, pour ressembler aux fesses, figurez-vous. Par exemple, Verlaine, qui est un poète français, disait « les fesses, les grandes sœurs des seins ». Je trouve ça amusant. Et Théophile Gautier, donc un autre poète et écrivain, surtout français, qui disait « Les seins, c'est deux mains peu mondes que l'on porte devant soi comme un second fessier ». Alors, je vous explique. C'est que chez les animaux qui marchent à quatre pattes, les fesses des femelles sont à hauteur du regard des mâles. Et pour eux, c'est une vision excitante. Mais chez les humains, comme on marche sur deux jambes, eh bien, les fesses, ils sont pas à portée des yeux. Résultat, la nature a remplacé l'attraction fessière, si on peut dire, par une autre, les seins. Et donc, il y a une espèce de sélection naturelle pour les femmes qui avaient des seins rebondis. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les femmes le ressentent vraiment parce que il y a énormément de techniques pour faire ressembler les seins à des fesses. Les soutiens-gorge comme les Wonder Bra, comme on dit, c'est pas pour faire de la pub, mais les implants mammaires pour grossir les seins, ou tout simplement les soutiens-gorge pigeonnants qui rapprochent les deux seins, qui les font ressembler un peu à des fesses. Et ben, c'est fait pour séduire les hommes.
Alors, les seins à tout séduction, mais pas seulement.
Non, bien sûr, ils servent pas qu'à ça. Les seins ont une autre utilité vraiment sexuelle, là, pas seulement séduction, qui est de faire monter l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que les seins vont réagir aux caresses et aux stimulations de la zone sexuelle. Quand vous êtes pendant une relation sexuelle, les seins vont gonfler de volume et le mamelon va avoir une érection très souvent. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le contraire est vrai. C'est-à-dire que si vous stimulez les seins, et les mamelons en particulier, ça va entraîner une réaction d'excitation sexuelle, donc ça va augmenter la lubrification chez la femme. Et ça a été remarqué depuis très longtemps, puisque le médecin du roi Henri IV, donc ça fait longtemps, disait, bon, en langage de l'époque, la sympathie et la communion admirable entre la matrice et les mamelles font qu'étant maniées et chatouillées, elles incitent au combat de Vénus. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la zone sexuelle et les seins, qu'il appelle les mamelles. Elles incitent au combat de Vénus, ça veut dire qu'elles donnent envie de faire l'amour.
Alors, des caresses, des seins,
il faut qu'elles soient
bien faites. Il y a toute une technique,
c'est ça ? Exactement, il y a une technique. Et alors, la technique, ça veut dire qu'il faut, pour être efficace au maximum et déclencher une excitation sexuelle, les études montrent qu'il faut entre 8 et 19 minutes de chaque côté. Donc, c'est très long. Et la plupart des femmes, je peux vous dire, se plaignent que leur partenaire ne sait pas caresser leur sein. Elles disent, il le fait trop brutalement. Ou alors, de toute façon, il le fait, mais c'est pour s'exciter lui-même et pas spécialement pour me donner du plaisir. Donc, messieurs qui nous écoutez, je vous incite fortement à demander à votre partenaire ce qui lui donne du plaisir. Et dans les études, ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui est sans doute le plus efficace comme stimulation des seins, c'est ce qui ressemble à la succion du bébé qui tète sa maman.
Alors, certaines femmes auraient des orgasmes justement déclenchés par ces caresses sur les seins. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai parce que en la stimulation des seins, ça peut provoquer une décharge d'ocytocine. Et c'est l'hormone qui est produite pendant l'orgasme. Et c'est la même hormone qui est produite pour éjecter le lait quand une femme allaite. C'est pour ça que titiller les seins, mais surtout au niveau des mamelons, ben ça peut déclencher un orgasme.
Alors, on a parlé des seins des femmes. Les hommes aussi ont des seins. Est-ce qu'il y a la même relation, justement, dans la sexualité, dans l'érotisme ?
Oui, exactement. On sait qu'une stimulation prolongée des mamelons peut entraîner, d'après Master et Johnson, donc deux sexologues très connus, ça entraîne une érection du pénis, hein, cette fois, dans 100% des cas, quand c'est fait suffisamment bien et longtemps. Alors, il y a des hommes qui disent, moi, ça me fait pas ça, j'aime pas les caresses au niveau des seins. Oui, mais souvent, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment essayé et c'est parce que ça les gêne, ça leur fait une sensation bizarre et ils se sentent mal à l'aise avec ça. Mais globalement, les stimulations des mamelons chez les hommes, c'est très efficace autant que chez les femmes.
Alors, les seins, ça sert aussi à allaiter les enfants, mais peut-être qu'il y a des confusions un peu de ce côté-là.
Alors, les seins, ça sert à allaiter les enfants, on peut dire oui, mais en fait, non aussi, parce que ce qui sert à allaiter les enfants, c'est la glande mammaire et le mamelon. Les seins, c'est-à-dire la rondeur, en fait, c'est de la graisse qui est faite pour décorer, pour à être un atout séduction. Chez les animaux qui marchent à quatre pattes, il n'y a pas de seins. C'est tout plat au niveau de leur torse et c'est seulement en période d'allaitement que ça gonfle. Donc, vraiment, les rondeurs, c'est plutôt fait pour la séduction. Et je dirais, le mamelon et la glande mammaire, c'est fait pour allaiter les bébés et aussi pour stimuler la sexualité.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui fabrique et réalise votre émission. Et demain, eh bien, nous parlerons du jeûne et du diabète. Les problèmes de l'abstinence alimentaire pour les personnes souffrant de maladies métaboliques. Pour poser vos questions, notre numéro 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'est Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.